Regina Ahmedova, que vous entendrez tout de suite dans Culture sans frontières, n'a qu'un seul instrument de musique, sa voix. Elle la sculpte, elle la travaille et l'utilise comme d'autres se servent des narchés. Et elle transmet ce plaisir aux personnes qui participent à ses ateliers vocaux, qui souvent leur permettent de dépasser la classique peur d'utiliser sa voix ou de ne pas cantonner leur chant au petit matin sous la douche. Regina Ahmedova parvient à réveiller les qualités insoupçonnées d'une voix, issue, comme son nom l'indique, d'une double culture. Anna Kubeshta lui a d'abord demandé comment il fallait l'appeler pour la présenter.
Culture sans frontières.
Vu que je vis à Prague, je préfère Ahmedova parce que sinon, quand on m'écrit souvent ça sur des affiches, je suis présentée comme Regina Ahmed. Je trouve que c'est un peu le jeu sur l'exotisme en République tchèque. C'est intéressant d'avoir un nom différent, d'avoir un nom qui ne sonne pas tchèque. Donc je préfère Ahmedova parce qu'en fait, c'est un peu de l'hypocrisie parce que je vis ici, je suis née ici. Donc je parle tchèque, donc je suis Ahmedova.
Si je vous demande ça, c'est parce que votre père est d'origine soudanaise, votre mère est d'origine tchèque, donc ça fait de vous une tchéco-soudanaise. Pour quelqu'un qui grandit en République tchèque, vous n'avez pas, on y reviendra après, vous n'avez pas totalement grandi uniquement en République tchèque, mais disons qu'il vit une bonne partie de sa vie en République tchèque. Qu'est-ce que ça représente de grandir avec cette double culture
C'était pas évident quand j'avais 14 ans et quand même avant en fait, parce qu'on vivait en Algérie. Dès mes 4 jusqu'à mes 14 ans, je vivais en Algérie, mais on venait chaque fois pour les vacances à Prague. Et donc j'étais en contact avec les enfants ici de mon âge, et c'est vrai qu'ils étaient assez racistes. Et souvent, je vous observais que donc, je n'étais pas acceptée pour la couleur de ma peau, pourtant je ne suis pas noire, je ne suis pas très sombre, mais on voit une petite différence par rapport aux enfants. À l'époque, dans l'époque du communisme, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers ici, donc vraiment c'était déjà quelque chose qui était bizarre, que j'ai un teint un peu plus bronzé. Et donc souvent, je me faisais attaquer verbalement.
Est-ce qu'on vous prenait pour une Rome, par exemple ?
Aussi, mais surtout, ils disaient, regarde, elle est sombre, elle est sale, je joue pas avec elle. On m'appelait charbon, des trucs comme ça. À l'époque, quand j'étais petite, ça me faisait vraiment mal.
Les enfants sont vraiment très cruels, en général.
Oui, surtout les enfants ici qui ne connaissaient pas d'autres personnes qui pouvaient avoir un teint différent, sauf les Romains, les Tziganes, qui étaient toujours les victimes de racisme. C'était pas, de ce point de vue, là, c'était pas facile. Mais sinon, ouais, c'était bien.
Alors, vous disiez justement que vous avez grandi en Algérie. Comment est-ce que vos parents se sont retrouvés là-bas, en fait? Et puis, alors, comment était votre enfance, vous, en Algérie?
Mais mon père a étudié à Prague. Il était choisi comme un bon élève, et donc on voyait à l'université à Prague. À l'époque, il faisait des études d'économie parce qu'il voulait retourner au Soudan pour aider le pays, idéaliste bien sûr, jeune, mais tout s'est passé d'une façon différente, comme ça se passe souvent comme ça. Il a rencontré ma mère ici et ils sont restés ensemble, et ensuite parce qu'il ne parlait pas tchèque et justement parce qu'il était différent, donc il est noir, c'était pas quelque chose d'habituel encore dans les années 70 à Prague. Il a reçu l'invitation, il a été invité à enseigner à l'université à Oran, en Algérie. Et donc on est parti là-bas toute la famille.
Et votre enfance en Algérie, c'était comment ?
C'était très joli. J'ai des très beaux souvenirs. J'étais dans le lycée Pasteur, qui est une école à Oran internationale. Donc j'étais en contact avec les enfants de beaucoup de pays du monde. Donc c'était bien. C'était une enfance très tranquille dans une ville au bord de la mer. Moi la mer me manque. Tout le reste de ma vie, la mer me manque. C'était très beau grandir au bord de la mer. La ville était paisible. À l'époque, l'Algérie était paisible.
Et alors, finalement, ces transitions entre l'Algérie, la Tchécoslovaquie, vous gériez comment à l'époque? Pour vous, c'était une chance? Est-ce que pour vous, la République, la Tchécoslovaquie, c'était un petit peu, je sais pas, par exemple, le pays rêvé, le deuxième pays vers lequel vous vouliez rentrer ou...
Je pense que même bien que j'étais encore petite, je me rendais compte qu'il y avait des avantages sur les deux côtés. Alors l'Algérie, c'était justement la mer, il faisait chaud, c'était des choses assez simples sur lesquelles je réfléchissais. Mais, et puis aussi une sorte de liberté d'esprit là-bas, parce que justement, comme je disais, j'étais dans un milieu très mixte, très varié,
international.
Donc, par rapport à ça, Prague, c'était un endroit où, bien sûr, j'avais beaucoup plus de liberté personnelle, parce qu'en Algérie, quand même, si je partais en voiture à l'école et on me ramenait en voiture, je n'avais pas beaucoup de temps libre pour moi-même. À Prague, je pouvais sortir toute seule. Ça, c'est, au niveau d'une liberté personnelle, je voyais que Prague, c'était beaucoup plus confortable, plus... C'est un pays qui est plus riche, donc il y a beaucoup plus de choix dans les magasins. Ce genre de choses, ça me paraissait bien. Mais quand en Tchécoslovaquie, je me suis rendu compte que c'était un pays où les gens ne se sentaient pas libres. Ils étaient assez renfermés sur eux-mêmes. C'était un endroit où, finalement, la vie n'était pas aussi plaisante qu'elle le paraissait quand je la regardais d'un pays de développement. Quand je regardais Prague de la République tchèque de loin, ou juste superficiellement, ça me paraissait vraiment comme l'endroit, le paradis, où je pouvais manger la glace, parce qu'en Algérie, je ne pouvais pas manger la glace à cause de la choléra, à cause de l'eau. Je voyais que ces choses-là. Quand je suis revenue ici, je me suis rendu compte qu'il y avait un niveau plus profond, que les gens n'avaient pas beaucoup de joie, ils avaient beaucoup de peur. C'est quand je suis rentrée au lycée que je me suis rendu compte de ça.
Alors tout ça, évidemment, ça a changé. Hein. La Tchécoslovaquie communiste n'existe plus. On est en République tchèque. Voilà, vous vivez une vie d'artiste ici, en République tchèque. Alors, je ne sais pas trop comment vous qualifiez, j'allais dire, une expérimentatrice de la voix. Comment est-ce que vous êtes arrivée déjà au chant, à la musique, à la composition? Et puis, est-ce que vous pourriez un petit peu décrire votre travail, hein?
Je chante surtout solo, sans accompagnement. J'utilise une petite machine qui me permet de chanter plusieurs voix, de créer plusieurs voix en même temps. Donc ça, le son, c'est une sorte de polyphonie.
Une polyphonie, mais avec une seule personne.
Voilà, une polyphonie créée juste par une personne. Et tout est créé en réel. Ce n'est pas un enregistrement que j'amènerai avec moi au concert. Donc tout est live.
Donc la machine, en fait, vous entrez par exemple des données auparavant?
Non.
Comment ça marche?
Je crée une piste, je fais tra la 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 et je le laisse jouer. Et ensuite j'ajoute d'autres pistes de son.
C'est plusieurs couches en fait de son comme ça qui s'accumulent.
Voilà, c'est ça exactement.
Et comment est-ce que vous êtes arrivé à cet instrument, en tout cas à cette machine, comme vous dites, c'est quelque chose de courant, c'est quelque chose que vous avez découvert, que vous vous êtes fait fabriquer?
C'est quelque chose qui existe. Moi, j'ai passé beaucoup d'années à chanter dans un groupe de jazz, ce qui était très bien. J'ai pris beaucoup d'expérience, mais j'avais quand même l'impression que c'était pas encore mon propre chemin musical. Et donc, je voulais faire de la musique solo. Et j'avais une grande motivation, mais en même temps, je ne joue pas d'instrument. Et donc, j'ai essayé de faire de cet inconvénient un avantage, et j'ai commencé à travailler solo, donc avec cette machine qui me permettait de faire des chansons sur stage par moi-même. Au début, j'avais bien sûr très peur parce que je m'étais, bien que j'avais passé beaucoup d'années à faire des concerts, j'avais l'habitude d'être sur stage, mais tout à coup, j'avais très peur d'être toute seule là-bas. Donc, le premier projet que j'ai fait était avec projection pour me cacher un peu. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que les gens acceptaient très bien, que c'était quelque chose qui avait une force ou une intensité. Et donc, j'ai continué à faire des solos. Maintenant, après des années de solo, je commence un tout petit peu à recollaborer régulièrement. On prépare maintenant avec un projet avec un musicien qui joue de la contrebasse, juste contrebasse acoustique et voix. Mais toujours ce solo, c'est quelque chose qui est très fort pour moi.
Alors, vous faites également des ateliers vocaux. Qui sont les personnes qui viennent chez vous?
Le genre de personnes qui viennent, c'est vraiment très varié. Il y a des jeunes, des personnes plus âgées, des étudiants, des professionnels de toutes sortes de professions, pas seulement des musiciens, ou même les musiciens sont minorités. Les ateliers que je fais, j'ai commencé à les faire parce que beaucoup de gens me demandaient si je voudrais donner des cours de chant. Moi, je ne donne pas des cours de chant parce que je pense que donner des cours de chant, vraiment, on a besoin d'avoir une technique et exquise, d'avoir une très bonne technique vocale, parce que c'est très facile d'apprendre des erreurs. Moment où l'enseignant ne maîtrise pas tout à fait sa technique vocale, il peut apprendre des choses qui sont mauvaises aux étudiants, et ensuite c'est très difficile de corriger. Donc c'est quelque chose que je ne veux pas faire encore. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, ce qui me fascine sur la voix, en fait, c'est que c'est vraiment un médium de joie.
De partage aussi.
Mais pour moi, c'est bien de partager, c'est très sain de partager. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'en fait, ça me libère, ça me donne la joie à moi-même.
Comment se déroule un atelier type avec vos étudiants, vos élèves, en tout cas ces personnes qui viennent apprendre à interpréter, enfin en tout cas à jouer avec leur voix?
Souvent, beaucoup, ou une partie des gens qui viennent, ce sont des gens qui ont une sorte de timidité d'utiliser leur voix. Ils ont envie, mais ils ont un peu peur, parce que quand ils étaient petits, on leur a dit qu'ils ne chantaient pas bien à l'école ou les parents. Donc on commence très très doucement pour ne pas justement forcer. On travaille avec la respiration, et ensuite on commence à travailler avec le son. Une grande partie de la journée, on travaille avec le son d'une manière qui n'est pas jugeable, je dirais. Ce sont des choses qui ne sont pas musique dans le sens propre du mot, tel qu'on l'utilise. Ce sont des choses, beaucoup de jeux, des exercices. Et puis à la fin de la journée, quand justement on fait des choses amusantes, des choses où souvent les gens rient, à travers justement une sorte de relaxation, quand la tension part, c'est là qu'on commence à chanter. Donc c'est vers la fin de la journée, en fait. Souvent les ateliers sont d'une journée. Mm-hmm. On commence le matin à 9h, on 10h, donc on finit à 5h30, disons.
Donc c'est une grosse journée.
C'est une grosse journée, et justement parce que c'est intense, on arrive vraiment à sentir une différence à la fin de la journée par rapport à l'état d'âme du début.
C'était la rediffusion de l'entretien avec la chanteuse Regina Ahmedova. Elle était au micro d'Anna Kubishta.